Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30 RTL, c'est le Tout Info, c'est avec Aude Vergnucco pour tout entendre de l'actualité de ce 20 juillet. Bonjour Aude.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et tout d'abord cette question, la France est-elle prête à affronter une éventuelle deuxième vague épidémique? Si les masques sont maintenant accessibles en pharmacie, chez les buralistes, qu'en est-il du matériel à l'hôpital qui a clairement fait défaut aux soignants pendant des mois, ainsi que ses médicaments utilisés en service de réanimation? En Alsace, le constat est clair, Yannick.
Aux urgences de Colmar, le docteur Yannick Godvalès est plutôt pessimiste. Si une deuxième vague arrive trop vite, le stock de l'hôpital en blouses, masques et gants ne suffira pas.
Très clairement, non. Il y a suffisamment de matériel pour fonctionner normalement, mais si on devait arriver de nouveau à une saturation comme il a été il y a quelques mois, pour l'instant, nous aurions beaucoup de mal à répondre. Tous les stocks qui ont été utilisés pendant le Covid ont totalement fondu. On a des tensions qui existent encore sur les approvisionnements et le plus flagrant actuellement, ce sont simplement les gants à usage unique.
Pour tous les équipements de protection, les fabricants n'arrivent pas à suivre la demande qui explose dans le monde entier et c'est ce qui inquiète Manuel Klein, le directeur de l'hôpital de Célestat, qui a vérifier ses stocks hier.
On a 4 semaines de stock d'avance pour tout ce qui est matériel à usage unique, hein, gants, blouse sur blouse, masque, et un mois de stock également sur tous les médicaments. 4 semaines, c'est confortable dans un fonctionnement normal. C'est sûr que si on devait être confronté à une nouvelle vague du Covid, si la demande devait être triplée, quadruplée, tout dépendrait de la capacité des laboratoires comme des usines à répondre à la demande.
Et l'hôpital de Célestat aimerait avoir 2 à 3 mois de stock pour être totalement rassuré.
Le reportage de Yannick Holland dans le Grand Est pour RTL. Le prix du masque, un sacré budget qui peut varier du simple au double jusqu'à 228 euros pour un couple avec 2 enfants selon le Parisien. On rappelle que l'encadrement des prix est prolongé jusqu'au 10 janvier 2021. Ça veut dire qu'un masque jetable ne peut coûter plus de 95 centimes l'unité vendue au détail.
Et il vaut mieux parce qu'en cas d'amende haute, ce sera 135 fois plus cher.
Son port est obligatoire dans les lieux publics fermés dès aujourd'hui. C'était déjà le cas dans les transports en commun. Est-ce qu'il y aura des contrôles, Virginie Garin?
Oui, et ceux qui s'obstineraient à se promener sans masque risquent 135 euros d'amende la première fois, 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et 6 mois de prison si vous vous faites prendre à plus de 3 reprises dans un délai d'un mois. Ce sont les responsables des lieux publics qui vont contrôler. Le responsable du magasin, par exemple, qui devra mettre un écriteau, masque obligatoire, et demander à ses clients de le respecter. Sinon, il pourra refuser l'entrée et si ça se passe mal, appeler la police, les forces de l'ordre qui feront de leur côté des contrôles inopinés. Il faudra donc porter le masque dans tous les commerces, centres commerciaux, administrations, mairies, préfectures, les banques, les marchés couverts. Dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme des lieux publics, là ce sont les dirigeants qui devront décider des règles au cas par cas. Le gouvernement a prévu de faire distribuer gratuitement des masques aux populations les plus en difficulté via les services sociaux ou les associations.
Explication Virginie Garin pour RTL. Le masque obligatoire, la deuxième vague dans notre pays. Question-réponse dans 10 minutes sur RTL avec le professeur Delfrécy. Il est l'invité tout à l'heure de Benjamin Sportouche.
Un troisième et dernier budget d'urgence validé par les sénateurs, mais ce sont les députés qui auront le dernier mot. Le projet de loi débloque 45 milliards d'euros pour les secteurs sinistrés du tourisme, de l'aéronautique et de l'automobile, mais aussi 50 millions pour le financement du repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. 2 jours après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. On ne connaît toujours pas les causes de l'incident, volontaire ou accidentel. L'enquête devra le déterminer. L'homme de 39 ans placé en garde à vue samedi a été libéré hier et mis hors de cause.
La série noire pour cette cathédrale nantaise, déjà touchée haute par un incendie en 1972.
À l'époque, il s'agissait d'un accident de chantier. Cette fois-ci, on le disait, la piste criminelle n'est pas écartée. Les images font penser en tout cas à un autre incendie, celui de Notre-Dame de Paris, il y a un an. Alors, faut-il prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser les lieux de culte? Alexandre Gadi est professeur à la Sorbonne et spécialiste du patrimoine.
Il y a quand même un effet de répétition qui est préoccupant. Répétition dans les incendies liés à des travaux, ça c'est le cas de Notre-Dame. Et puis, si l'enquête se dirige vraiment dans le sens d'un incendie volontaire, répétition aussi des actes de vandalisme, comme on l'avait vu quelques jours avant Notre-Dame, on en a moins parlé à la basilique Saint-Denis. Pour réagir, il faudrait peut-être revoir un certain nombre de protocoles de sécurité. On le sait pour les incendies, on l'a dit avec Notre-Dame, peut-être aussi pour les sécurités anti-intrusion, pour les alarmes. C'est un peu triste, parce qu'on est obligé d'aller dans une culture un peu de la paranoïa. Voyez. Qu'est-ce qui peut arriver et anticiper? Mais peut-être que ça pourrait nous économiser aussi des pertes graves et puis la disparition d'un patrimoine précieux qui appartient à tout le monde.
Propos recueillis par Hortense Crépin pour RTL.
Alors, sécuriser notre patrimoine en France, on va en parler avec la ministre de la Culture qui est l'invitée de RTL tout à l'heure à 8h20. Roselyne Bachelot sera en direct et en studio.
Dans le reste de l'actualité, des portes qui claquent, le ton qui monte et Emmanuel Macron qui tape du poing sur la table. Ambiance au sommet européen de Bruxelles sur le plan de relance de l'économie post-Covid. Les discussions ont brièvement repris ce matin avant de tourner court à nouveau. Elles reprendront cet après-midi. Le président français se serait emporté à plusieurs reprises sur le comportement de ses homologues. Le président du Conseil européen, lui, Charles Michel, a pressé les États frugaux, Autriche, Pays-Bas, de ne pas présenter l'image d'une Europe faible.
Et puis les États-Unis, Aude, avec une interview présidentielle haute en couleur sur Fox News.
Réaction courroucée de Donald Trump lorsqu'un journaliste de la chaîne mentionne les derniers sondages défavorables. Le républicain serait derrière son adversaire, démocrate à 8 points d'écart. Lui parle de sondage bidon. Mauvais joueur, le président ?
Je n'aime pas perdre, je ne perds pas très souvent. Et vous savez pourquoi je ne vais pas perdre ? Parce qu'au final, ce pays ne va pas choisir quelqu'un de dérangé. Biden est mentalement dérangé. Moi, je fais 4-5 discours par jour. Je peux répondre aux interviews les plus difficiles posées par des gens qui me haïssent. Mais si Biden était ici à ma place, il serait en train de pleurer et d'appeler sa maman. Maman, maman, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Il n'est pas capable de répondre à une interview, il est incompétent.
Donald Trump sur Fox News. Autre propos remarqué, ce sur le coronavirus. Le président américain persiste et signe. Ça va disparaître. Pas question donc d'imposer le port du masque.
Les sports avec cette première depuis 1999. Un Français remporte le Grand Prix d'Espagne moto.
Du haut de ses 21 ans, Fabio Quartararo met fin à la disette française au Grand Prix de Jerez. Le dernier gagnant, c'était Régis Laconi, il y a plus de 20 ans. À l'arrivée, le nouveau champion a le souffle coupé. Écoutez.
Oh, j'arrive pas à réaliser. C'est vraiment dur de savoir que j'ai gagné mon premier Grand Prix ici à Jerez. Ça avait très mal commencé, mauvais départ, mauvais premier tour. Donc voilà, j'arrive pas encore à réaliser. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner sur une machine pour courir devant un frigo. Donc être vraiment concentré, ça n'a pas été difficile. Mais vraiment, voilà, dernier tour, je suis passé secteur par secteur. Quand j'arrivais dans le dernier secteur, voilà, j'allais vraiment tout doucement pour être vraiment précis. Et voilà, c'est incroyable d'avoir eu la victoire. Et c'est pour mes parents, mon frère, mon fraté, toute la famille qui croit en moi et surtout mon manager.
Fabio Quartararo sur RTL. Et puis côté Formule 1, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie, deuxième succès consécutif depuis le début de la saison. Il devance Max Verstappen, je vais y arriver, arrivé deuxième, et Valtteri Bottas.
Voilà qui est dit, Aude Vernuccio.